Chapitre 14. Les fondements et l'orientation du ministère prophétique d'Ellen White. Merlin D. Burt. Même si Ellen White est décédée il y a 100 ans, des millions de personnes sont bénies par ses écrits, et ses ouvrages continuent à être traduits dans de nouvelles langues. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que le ministère et les écrits d'Ellen White avaient et ont toujours pour objectif d'amener le plus grand nombre de personnes à Jésus et à la Bible. Il est essentiel que les adventistes du septième jour et tous ceux qui s'intéressent à Ellen White se souviennent de cela dans leur approche de sa vie et de son ministère. Depuis l'âge de 17 ans et jusqu'à la fin de sa vie 70 ans plus tard, 1844 à 1915, elle eut ce qu'elle et beaucoup d'autres croyaient être des rêves et des visions prophétiques surnaturelles. Ces rêves et ces visions encouragèrent les gens dans leur marche avec le Christ. Ils nous permirent de mieux comprendre le caractère de Dieu et le conflit cosmique entre le bien et le mal, et ils contribuèrent à la création de l'Église adventiste du septième jour. Il y a différentes façons d'évaluer le ministère prophétique d'Ellen White. L'objectif de ce chapitre est de montrer que deux principes herméneutiques fondamentaux sous-tendaient la vie spirituelle et le ministère prophétique d'Ellen White, sa passion pour Jésus et l'amour de Dieu, et sa position concernant le lien entre ses écrits et la Bible. Il est essentiel de comprendre et de mettre l'accent sur ces deux aspects pour interpréter correctement ses écrits. Ces deux principes sont liés, et sans eux, il n'est pas possible de comprendre son ministère. Les adventistes du septième jour considèrent que les écrits d'Ellen White sont une manifestation de l'esprit de prophétie. Ceci a parfois été remis en question, et pourtant ceci est vrai à condition de comprendre le ministère d'Ellen White dans le cadre de l'action du Saint-Esprit qui ne se limite pas à cela. Le texte d'Apocalypse 19, verset 10, décrit le don de prophétie ou l'esprit de la prophétie comme étant le témoignage de Jésus. Ses paroles sont profondes. Ainsi, ce processus est fondé sur le Christ. Dans l'Apocalypse, nous lisons que Jean reçut un message pour les sept églises. Les mots utilisés montrent donc que Jésus lui-même communique avec son peuple par l'intermédiaire de messagers prophétiques. Le témoignage prophétique de Jésus, transmis par l'intermédiaire de Jean dans le livre de l'Apocalypse, fait désormais partie de la Bible. Le message de Jésus nous parvient grâce aux révélations prophétiques qui se trouvent dans la Bible. Par conséquent, tout le processus prophétique est aussi centré sur l'Écriture. Ellen White pensait également que ses visions prophétiques étaient des témoignages de Jésus, et donc centrées sur le Christ. Par conséquent, ses écrits avaient pour but d'amener ses lecteurs à la Bible et à son message. Accepter le message prophétique d'Ellen White implique un processus permettant de passer du doute à la confiance. Ellen White elle-même avait conscience de la nécessité d'évaluer ses écrits et de réfléchir avant d'accepter l'idée que Dieu parlait par son intermédiaire. Elle faisait preuve de patience et de bonté vis-à-vis de ceux qui avaient des doutes. Il m'a été révélé que certaines personnes, dans l'Iowa, font des visions à un critère que tous doivent accepter, et qu'elles ont pris des décisions que mon mari et moi-même n'avons jamais voulu. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon ministère, et qui sont sceptiques concernant tout ce qui est lié de près ou de loin aux visions. C'est normal, seule l'expérience peut changer cet état de fait. Les personnes qui ne sont pas au clair concernant les visions ne doivent pas être accablées. Celles qui ne connaissaient rien aux visions ont été traitées de la même manière que celles qui ont reçu une grande lumière et qui ont une certaine expérience à ce sujet. On a demandé à certaines personnes d'accepter des visions alors qu'en toute conscience, elles ne pouvaient pas le faire. Ainsi, ces personnes sincères ont été amenées à prendre position contre les visions et contre le corps des croyants, alors que les choses ne se seraient pas passées ainsi si la situation avait été gérée avec plus de finesse et de bonté. Certains de nos frères ont découvert la vérité il y a bien longtemps. Ils me connaissent et ils sont familiarisés avec mes visions depuis des années. Ils sont convaincus de la validité de ces témoignages et ils savent pourquoi ils les considèrent comme exacts. Ils ont ressenti l'influence puissante de l'Esprit de Dieu en eux, ce qui les a convaincus de la fiabilité des visions. Si ces personnes sont remises en question par des visions et, de ce fait, expriment leur désaccord et agissent contre nos intérêts, il faut agir après d'elles avec droiture, car leur influence peut nuire à tous ceux qui manquent d'expérience. Le mot-clé de cette déclaration est « expérience ». Il est important d'avoir une approche éclairée des écrits et du ministère d'Ellen White. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc quand nous lisons la Bible. le même esprit utilise les écrits d'Ellen White pour nous permettre d'établir une relation avec Jésus et le message de la Bible. Il nous amène à reconnaître la véracité des révélations prophétiques. Pour faire cette expérience, les lecteurs des écrits d'Ellen White doivent comprendre quels sont les fondements de son ministère, l'amour de Dieu manifesté en Christ et la Bible. Ellen White est trop souvent caricaturée par des personnes qui affirment qu'elle avait deux passions, réprimander les pécheurs et définir des règles. Certes, elle fut contrainte d'établir des règles, mais ce n'était pas le but qu'elle poursuivait dans sa vie personnelle, ni l'objectif de son ministère. Les adventistes du septième jour et d'autres personnes qui ont une vision négative d'Ellen White doivent apprendre à découvrir qui elle était réellement, ce qu'elle pensait et ce qu'elle déclara vraiment. Ce chapitre propose une présentation générale de son ministère plus qu'une étude détaillée. Dans la première partie, nous étudierons la position d'Ellen White concernant l'amour de Dieu manifesté en Christ, en évoquant sa conversion et ses premières visions, ainsi que ses écrits jusqu'en 1888 et les dernières décennies de sa vie alors qu'elle était veuve. Dans la deuxième partie, nous étudierons ses écrits en lien avec l'idée que l'écriture est la seule règle de foi et de pratique. Ce sera l'occasion d'évoquer l'opinion des premiers adventistes concernant le lien entre ses écrits et la Bible, ses déclarations sur l'écriture, la position des adventistes à propos des écrits canoniques et non canoniques, et le rôle d'Ellen White dans le développement des doctrines adventistes. Première partie, la passion d'Ellen White pour l'amour de Dieu manifesté en Christ. Conversion et première vision. Ellen White grandit dans un foyer très religieux. Son père avait des responsabilités au sein de l'église méthodiste et contribua même à développer une branche de la congrégation au sud de Portland, dans le Maine, aux États-Unis, au cours des années 1840. Durant son enfance et son adolescence, Ellen était introvertie et mélancolique. Elle avait une vie intérieure intense et était très exigeante vis-à-vis d'elle-même. Son principal défaut était qu'elle gardait tout en elle. Par conséquent, elle vivait des crises émotionnelles sans trouver de réponse aux questions qu'elle se posait. Sa conversion dura environ 7 ans et elle connut 3 phases. Elle frôla la mort, lutta avec des questions relatives à la justification et au pardon des péchés, et elle s'interrogea au sujet de la sanctification et de la sainteté en lien avec le retour de Jésus. Elle eut un accident en 1836 ou 1837 qui changea le cours de sa vie. L'une de ses camarades, qui était plus âgée, lui lança une pierre qui lui brisa le nez et la laissa invalide pendant une bonne partie de son enfance. En raison de cette blessure, tout le monde pensait qu'elle allait mourir. Alors qu'elle était en situation de grande faiblesse, elle donna simplement son cœur à Jésus et trouva la paix. Cependant, quand elle se remit de cet accident, elle entra dans une autre phase de son processus de conversion. Cet événement l'obligea à arrêter ses études et, en raison de cela, elle éprouva une grande amertume vis-à-vis de Dieu. Mais elle vécut un moment fort quand elle comprit que Jésus pouvait pardonner ses péchés lors d'un camp méthodiste qui fut organisé à Buxton, dans le Maine, en 1841. Alors qu'elle était découragée, elle eut un rêve dans lequel elle vit Jésus. « Je fus bientôt en présence de Jésus, impossible de se tromper. Cette expression de bienveillante majesté ne pouvait être que la sienne. Dès que son regard se posa sur moi, je sentis qu'il connaissait toutes les circonstances de ma vie, ainsi que mes pensées et mes sentiments les plus secrets. Incapable de supporter son regard scrutateur, je tentai de m'y soustraire, mais s'approchant de moi, il posa la main sur ma tête et me dit en souriant « Ne crains point ». Les accents de cette douce voix firent tressaillir mon cœur d'une joie inconnue jusqu'alors. Cette joie m'ôta l'usage de la parole. Vaincu par un bonheur ineffable, je tombai prosterné à ses pieds. Cette vision de Jésus n'était pas un rêve prophétique, mais plutôt un rêve personnel qui lui donna le courage de parler avec sa mère de ses doutes et de ses craintes. Ceci l'amena à la dernière étape de son processus de conversion. Eunice Harmon prit des dispositions pour qu'Ellen puisse parler avec Levi Stockman, un pasteur méthodiste en qui elle avait confiance. Levi Stockman, qui mourut de tuberculose avant la grande déception de 1844, était un homme ayant une expérience spirituelle profonde. Pour la première fois peut-être, Hélène Harmon ouvrit son cœur et évoqua toutes ses interrogations. Quand elle eut terminé de parler de ses chagrins, de ses doutes et de ses peurs, elle constata que Stockman pleurait aussi. L'aide qu'il lui apporta eut une influence sur sa vie entière. Il lui permit de percevoir Dieu différemment. Voici ce qu'elle écrivit au sujet de leur échange. « Ma perception du Père changea. Je le considérais désormais comme un parent tendre et bon, plutôt que comme un tyran austère contraignant les hommes à lui obéir aveuglément. Je lui ouvris mon cœur dans un élan d'amour profond et fervent. Obéir à sa volonté était désormais une grande joie. C'était un plaisir d'être à son service. » Les années suivantes, l'amour paternel de Dieu devint le thème favori d'Ellen White. Elle enseignait aussi que c'était le sujet favori de Jésus. Son chant préféré était « Jesus, lover of my soul »,« Jésus, toi qui aimes mon âme » de John Wesley. J'aimerais citer ce passage pour illustrer sa passion pour ce sujet. « Tout l'amour paternel qui, de génération en génération, a traversé des cœurs humains, toutes les sources de tendresse qui jaillissent dans les âmes des hommes, ne sont que de minuscules ruisselets en comparaison de cet océan sans limite que constitue l'amour infini, inépuisable de Dieu. Notre langue ne peut l'exprimer, la plume ne saurait l'évoquer. Vous pouvez le méditer tous les jours de votre vie, vous pouvez sonder diligemment les Écritures pour tenter de le comprendre, vous pouvez mettre en œuvre toutes les puissances et toutes les facultés dont Dieu vous a doté afin d'essayer de comprendre l'amour et la compassion du Père Céleste. Vous découvrirez encore un infini au-delà de vos découvertes. Vous pouvez étudier cet amour pendant des siècles, cependant, vous ne pourrez jamais comprendre pleinement la longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu donnant son Fils afin qu'il meure pour le monde. L'éternité elle-même ne suffira pas à le révéler. Cependant, quand nous étudions la Bible et méditons sur la vie du Christ et le plan du salut, nous comprenons chaque jour un peu mieux ces thèmes importants. Sa position sur le grand conflit est sous-tendue par ce thème. Elle écrivit sur ce sujet dès 1858 et jusqu'à la fin de sa vie. Elle publia 3 séries de livres qui aboutirent à la série « Le conflit des âges » qui est tant appréciée aujourd'hui. Ellen White écrivit ses livres en pensant à l'amour de Dieu. Le premier volume, « Patriarchs and Prophets »,« Patriarches et Prophètes », débute par ces mots. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16. Sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour. Tel il est, tel il a été, tel il sera. Le dernier livre, The Great Controversy, la tragédie des siècles, se termine par ces mots. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. De l'atome le plus imperceptible au monde les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent, par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Son livre le plus traduit et le plus lu est « Steps to Christ », « Le meilleur chemin ». Le premier chapitre de ce livre porte sur l'amour de Dieu. Parfois, les gens ne savent pas que les 3 premières visions prophétiques majeures qu'Ellen White eut en 1844 et 1845 étaient centrées sur Jésus. Dans sa première vision, le cri de minuit, le peuple de Dieu suit Jésus sur le chemin. Quand il est découragé, Jésus lève le bras et une lumière luit sur le peuple. Dans sa deuxième vision, l'époux, Jésus conduit son peuple du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire. Dans sa troisième vision, la Nouvelle Terre, Jésus montre personnellement à Ellen White la gloire future de la Nouvelle Terre. Écrit jusqu'en 1888, on dit souvent qu'Ellen White commença à comprendre le thème de la justification par la foi assez tardivement. Il est vrai que ses écrits témoignent d'une plus grande ouverture et d'une plus grande éloquence dans les dernières décennies. Pourtant, lors de l'assemblée de la conférence générale qui eut lieu en 1888 à Minneapolis, dans le Minnesota, elle écrivit « Je vois toute la beauté de la vérité dans la représentation de la justice du Christ en lien avec la loi, comme le docteur Wagoner nous l'a montré. Ce n'est pas une lumière nouvelle pour moi, car elle m'est donnée par celui qui a toute autorité depuis 44 ans. » Un an plus tard, quand on lui demanda de s'exprimer au sujet de la lumière nouvelle qui était apportée concernant la justification par la foi telle qu'elle était présentée par Jones et Wagoner, elle répondit « En fait, je parle des charmes incomparables du Christ depuis 45 ans. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Peter van Bemelen a rédigé un article intéressant sur le sens théologique de cette expression « les charmes incomparables du Christ ». Il souligne qu'au cours des années 1850, Ellen White l'utilisa à de nombreuses reprises et que cette tournure était appréciée. « Que le Christ soit en vous l'espérance de la gloire, et vous découvrirez en lui des charmes incomparables qui captiveront votre âme. Vous vous attacherez à lui, vous choisirez de l'aimer et de l'admirer, si bien que vous vous oublierez vous-même. Ils regarderont au Sauveur béni qui s'est donné lui-même pour eux, et, avec admiration et amour pour celui qui leur sourit, ils élèveront leur voix et chanteront ses louanges et sa gloire, tandis qu'ils prendront conscience des charmes incomparables de l'amour du Sauveur. Je pose mon stylo et je m'exclame : quel amour ! Quel merveilleux amour ! Les mots les plus profonds ne peuvent décrire la gloire du ciel, ni les charmes incomparables de l'amour de notre Sauveur. » Les publications d'Ellen White montrent qu'elle avait mieux compris que ses pairs la théologie relative au Christ. Ses écrits sur le grand conflit, notamment, sont centrés sur le Christ. Quand on s'intéresse au premier livre qu'elle écrivit sur ce sujet, le titre des chapitres parle d'eux-mêmes : The Fall of Satan, la chute de Satan, The Fall of Man, la chute de l'homme, The Plan of Salvation, le plan du salut, The First Advent of Christ, la première venue du Christ, The Ministry of Christ, le ministère du Christ, et ainsi de suite. Les 80 premières pages sont largement consacrées à la vie et à la mort de Jésus. Ellen White aborda le sujet du grand conflit pour la première fois le dimanche 23 mai 1858, alors qu'elle était en train d'écrire son livre. Ses paroles eurent un grand impact. Uriah Smith raconta ceci. Quand elle aborda le sujet de la venue du Christ, de son humiliation, de ses souffrances et enfin de la crucifixion de notre Sauveur, certaines personnes pleuraient en silence, alors que d'autres sanglotaient, ce qui montra que de nombreux cœurs étaient touchés par les souffrances du Fils de Dieu en faveur de l'homme rebelle. Elle parla donc de Jésus et du plan du salut. Les personnes présentes étaient tellement émues qu'elles restèrent à l'écouter jusqu'à 22 heures, puis partagèrent des témoignages jusqu'à 23 heures. C'est à contre-cœur qu'elles mirent fin à la rencontre. Au cours des années 1860 et 1870, elle s'intéressa particulièrement au lien entre la nature divine et la nature humaine du Christ. Au cours de ces années-là, elle évoqua très souvent la nature humaine du Christ. Elle parlait des infirmités naturelles de Jésus ou de sa nature déchue, autrement dit, de sa faiblesse humaine due à un corps imparfait en raison de la chute d'Adam. En même temps, elle écrivit en 1869 « Il est notre frère dans nos faiblesses, mais non dans nos passions. Étant sans péché, il reculait d'horreur devant le mal. » Elle fit preuve de cohérence toute sa vie, en affirmant que même si Jésus avait des faiblesses dont il était innocent, il ne s'était pas tourné vers le mal. Au sujet de sa nature divine, Ellen White écrivit en 1878 que Jésus était éternel, et elle fut certainement la première pionnière adventiste à publier cela. Même Wagoner, en 1890, présentait Jésus comme ayant un commencement à un moment donné de l'éternité. Les écrits d'Ellen White sur la divinité étaient explicites et clairs. En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée, et qu'il ne tient de personne. Sa correspondance personnelle révèle sa passion pour Jésus et sa puissance salvatrice. Nous en avons un exemple dans la lettre qu'elle adressa à son fils Willy alors qu'elle participait à un camp meeting à Oakland, en Californie, en 1874. Dimanche dernier après-midi, j'ai pris la parole et j'ai parlé des souffrances du Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ le Sauveur vivant, Christ notre avocat dans les cours célestes, Christ qui revient. Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. La croix du calvaire est la puissance et la sagesse de Dieu, sa façon de sauveur les pécheurs. La lumière qui luit de la croix du calvaire rend le plan du salut si simple que même les enfants peuvent le comprendre, et si fort que personne ne peut y résister, si ce n'est ceux qui se laissent contrôler par la puissance de Satan. La déclaration la plus marquante qu'ait faite Ellen White au sujet de sa passion pour Jésus est peut-être une représentation graphique. En 1873, Kellogg fit un tableau de l'histoire du monde qu'il publia sous forme de lithographie et qu'il intitula « The Way of Life from Paradise Lost to Paradise Restored », le chemin de la vie du paradis perdu au paradis retrouvé. Au centre du tableau se trouvait la loi de Dieu accrochée à un arbre et Jésus sur la croix. James White le modifia légèrement en 1876. Après la mort de son mari, Ellen White fit graver de nouveau ce tableau. La nouvelle lithographie représentait la croix du Christ au centre du tableau, et la loi de Dieu n'était plus située sur le même plan. Elle donna aussi un nouveau titre à cette représentation, « Christ, the way of life »,« Christ, le chemin de la vie ». Ce tableau fut publié en 1883, 5 ans après l'assemblée de la Conférence générale de 1888. Ellen White et Jésus après 1888. Ellen White avait presque 61 ans en 1888, lors de l'assemblée de la Conférence générale. Elle écrivit beaucoup au cours des 26 ans qui suivirent. C'est à cette période qu'elle publia ses œuvres littéraires et spirituelles les plus importantes. Ses livres mettent tout particulièrement l'accent sur la vie de Jésus et les thèmes de l'Évangile. On peut citer par exemple « Steps to Christ » 1892, « Le meilleur chemin »,« Thoughts from the Mount of Blessing » 1896, « Heureux ceux qui »,« The Desire of Ages » 1898, « Jésus-Christ » et « Christ's Object Lessons »,« Les paraboles de Jésus » 1900. D'autres livres majeurs également écrits à cette époque comme « Éducation » 1903, « Éducation » et « The Ministry of Healing » 1905, « Le ministère de la guérison » insistent aussi sur des thèmes comme la nature du Christ et le plan du salut. Au cours des années 1890, alors qu'elle était en Australie, Ellen White travailla sur son livre « Desire of Ages » « Jésus-Christ ». Ce travail lui procura beaucoup d'émotions, comme elle le dit dans son journal personnel et sa correspondance. Ses commentaires révèlent la profondeur de ses sentiments envers Jésus. Je suis bien incapable d'exprimer toutes les choses qui brûlent dans mon âme concernant la mission du Christ. Je ne sais pas de quelle façon parler oralement ou par écrit de la question si profonde du sacrifice expiatoire. Je ne sais pas de quelle façon présenter certains sujets avec toute la force qui les caractérise. Je tremble de peur, car je ne veux pas sous-estimer la grandeur du plan du salut en employant des mots inappropriés. Mon être entier aspire après le Seigneur. Je ne peux me satisfaire de quelques éclairs de lumière. Je veux en avoir davantage. Je suis bouleversé tandis que j'écris sur la vie de Jésus. J'oublie de respirer. Je ne peux supporter l'intensité des sentiments qui me submergent quand je pense à ce qu'a souffert le Christ pour le monde. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. Je ressens vivement la nécessité de confier mon âme troublée à Jésus-Christ. Il est mon soutien. Il est tout pour moi. Je me sens fragile comme de l'eau, sans le Saint-Esprit de Dieu pour me soutenir. Des larmes coulent sur mes joues quand je pense à ce qu'est le Seigneur pour ses enfants et quand je prends conscience de sa bonté, de sa miséricorde et de sa tendre compassion. L'une des lettres les plus touchantes et spirituelles d'Ellen White est adressée à Elisabeth, sa sœur jumelle, en 1891, alors qu'elle allait mourir. Lizzie, comme elle l'appelait, ne vécut pas en chrétienne pendant la majeure partie de sa vie chrétienne. Cette lettre ne fut jamais publiée et avait un caractère personnel. Elle révèle l'aspiration spirituelle d'Hélène pour sa sœur et son amour pour Jésus. J'aime parler de Jésus et de son amour incomparable, et je consacre toute mon âme à cette tâche. Je ne doute pas un instant de l'amour de Dieu, de l'intérêt qu'il nous porte, de sa bonté et de sa capacité à sauver tous ceux qui viennent à lui. Ne crois-tu pas en Jésus, Lizzie? Ne crois-tu pas qu'il est ton sauveur? Qu'il a prouvé son amour pour toi en donnant sa vie précieuse afin que tu sois sauvé? Tout ce que tu as à faire, c'est accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Je prie de tout cœur pour que le Seigneur Jésus se révèle à toi et à Ruben. Ma chère sœur, ce que tu as à faire n'est pas extraordinaire. Tu es pauvre, malade et affligé, et Jésus t'invite à venir à lui. Tes amis sont peut-être compatissants, mais ils ne peuvent te sauver. Ton médecin ne peut pas non plus te sauver. Mais Jésus est mort pour toi, afin que tu puisses vivre éternellement. Crois simplement que Jésus peut accepter ce que tu lui confesses, prendre sur lui ton châtiment, pardonner tous tes péchés et faire de toi l'un de ses enfants. Ne veux-tu pas placer ta foi en lui? J'aimerais tellement te prendre dans mes bras et te placer sur le sein de Jésus-Christ. Si Jésus devient ton ami, tu n'auras pas peur de mourir, car tu fermeras les yeux et tu les rouvriras quand tu seras au ciel. Alors nous nous retrouverons et nous ne serons plus jamais séparés. Résumé. Toute sa vie, Ellen White fut passionnée par Jésus et l'amour de Dieu. Il n'est pas possible de tout dire sur ce sujet, mais les lecteurs commencent peut-être à prendre la mesure de la profondeur de son expérience chrétienne. Aujourd'hui, les adventistes, les plus jeunes comme les plus expérimentés, doivent comprendre qu'Ellen White aimait profondément Jésus. La meilleure façon de conclure est peut-être de donner un dernier exemple. Il s'agit d'un souvenir de la petite fille aînée d'Ellen White, Ella M. Robinson. Ella avait une trentaine d'années quand Ellen White est décédée en 1915. Elle avait la vie devant elle. Quand on lui demanda quel était son souvenir préféré de sa grand-mère, elle répondit « Je vois ma grand-mère debout devant le pupitre, vêtue de sa longue robe noire fluide dont l'extrémité des manches est blanche, avec un petit col retenu par une broche. Elle parle de l'amour incomparable du Christ qui souffrit l'ignominie de la mort et prit le risque d'être éternellement séparé de son Père du ciel en prenant sur lui les péchés du monde. » Elle s'arrête, elle lève les yeux, et une main sur le pupitre et l'autre tendue vers le ciel, elle s'exclame d'une voix forte. « Ô Jésus, je t'aime tellement, je t'aime tellement, je t'aime tellement. » Le silence règne, le ciel est proche. L'étude des révélations prophétiques d'Ellen White n'est pas seulement un travail universitaire. La nature même de leur message nous invite à nous tourner vers le Père rempli d'amour qui s'est révélé par le don de Jésus. Deuxième partie. Ellen White et l'Écriture. Le deuxième élément qu'il est essentiel de comprendre pour interpréter correctement les écrits d'Ellen White est son attachement à l'Écriture. L'une des caractéristiques majeures de l'Église adventiste du septième jour est sa conviction que les dons de l'Esprit, dont la liste se trouve dans Romains 12, versets 4 à 8, Éphésiens 4, versets 11 à 13 et 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31, continue à se manifester aujourd'hui et qu'il en sera ainsi jusqu'au retour du Christ. Parmi ces dons se trouve le don de prophétie, qui, selon les adventistes, s'est manifesté par la vie et le ministère d'Ellen White. Cette croyance est parfois mal comprise par certains protestants qui considèrent que le fait d'accepter l'idée que le don de prophétie puisse se manifester aujourd'hui encore est incompatible avec l'un des principes majeurs hérités de la Réforme, sola scriptura. Les adventistes, croyant à la validité du don de prophétie en cette fin des temps, certains ont conclu qu'ils considèrent les écrits d'Ellen White comme des textes additionnels à l'écriture. Cette conclusion est erronée. Histoire de la position des adventistes concernant les écrits d'Ellen White. Les adventistes ont toujours adopté l'approche restaurationniste de l'écriture, selon laquelle les credos et les traditions ne font pas autorité. Ils s'efforcent de considérer le développement institutionnel, liturgique et doctrinal de l'Église à la lumière de l'Écriture, afin de baser leur foi sur la Bible. James White et Joseph Bates, deux des principaux fondateurs de l'Église adventiste du septième jour, venaient d'une branche du nord de la Nouvelle-Angleterre de la Christian Connection. Pour eux, le principe sola scriptura était une évidence. Bien que les adventistes du septième jour aient défini un ensemble de croyances fondamentales, ils ne les considèrent pas comme un credo, mais plutôt comme une présentation de ce qu'ils croient. Au fil des années, ces croyances sont revues et élargies. Le préambule de cette déclaration est le suivant. Les adventistes du septième jour reconnaissent la Bible comme leur seul credo et professent un certain nombre de croyances fondamentales procédant des saintes écritures. Ci-après, croyances, énoncées ci-après, expose la manière dont l'Église conçoit et exprime l'enseignement biblique. Cette profession de foi est susceptible d'être révisée lors d'une session de la conférence générale, quand l'Église est amenée par l'Esprit-Saint à une meilleure compréhension des vérités bibliques ou qu'elle trouve un langage mieux approprié pour exprimer ce que la parole de Dieu enseigne. Dès la création de leur mouvement, les adventistes du septième jour ont considéré que la Bible seule pouvait permettre de définir des doctrines. La première croyance fondamentale dit ceci. Les saintes écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite communiquer grâce à l'inspiration divine par l'intermédiaire de saints hommes de Dieu qui ont parlé et écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. Les saintes Écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. 2 Pierre 1, versets 20-21, 2 Timothée 3, versets 16-17, Psaume 119, versets 105, Proverbe 30, versets 5-6, Ésaïe 8, versets 20, Jean 17, versets 17, 1 Thessaloniciens 2, versets 13, Hébreux 4, verset 12. Dans A Word to the Little Flock, la première publication des adventistes sabbatistes, James White écrivit « La Bible est la révélation parfaite et complète. Elle est notre seule règle de foi et de pratique. » 9 ans plus tard, il affirma « Je continue à dire que la Bible est ma seule règle de foi et de pratique, et en disant ceci, je ne rejette pas le Saint-Esprit qui opère de diverses façons. » En 1863, James White déclara « Quand nous affirmons nous fier à la Bible et la Bible seule, nous nous engageons à accepter sans équivoque tous les enseignements de la Bible. » Uriah Smith, qui fut longtemps le rédacteur en chef de la revue Review and Herald, écrivit en 1868 « La Bible nous accorde la sagesse dont nous avons besoin pour accepter le salut qui nous est offert et nous permet de faire de bonnes œuvres. Les visions changent-elles ceci ? Nous incitent-elles à définir de nouveaux critères et nous donnent-elles une nouvelle règle de foi et de pratique ? Absolument pas. Au contraire, elles sont toujours en harmonie avec la parole et montrent que la parole est le critère ultime. » La raison pour laquelle James White acceptait la légitimité des manifestations prophétiques après l'époque du Nouveau Testament était basée sur sa compréhension des Écritures. Il citait Joël 2, versets 28 à 30, et Actes 2, versets 17 à 20, et il écrivit « Les rêves et les visions font partie des signes qui précéderont le grand retour du Seigneur. Je sais que c'est une position très impopulaire, même parmi les adventistes. » Mais je choisis de croire à la parole de Dieu sur ce point plutôt qu'aux enseignements des hommes. » En 1868, James White montra que sa position n'avait pas changé. « Nous constatons désormais que les dons de l'esprit ont toute la place qui leur revient. Ils ne sont pas manifestés pour définir une règle de foi et de pratique. Nous avons déjà une règle qui est parfaite dans les saintes Écritures. Ils, les dons, n'ont pas pour but de remplacer les Écritures. » Et ils ne sont pas donnés parce que les Écritures sont une règle de foi et de pratique imparfaite. Mais parce que le peuple qui affirme appartenir à Dieu s'est égaré en ne mettant pas en pratique la règle parfaite qui leur a été donnée. Les dons sont manifestés pour reprendre ceux qui errent et les amener à la Bible, afin qu'elle soit pour tous une lampe et un guide. Ces déclarations montrent qu'elle a toujours été la position des adventistes sur le principe sola scriptura. Les premiers adventistes affirmaient clairement que la Bible seule faisait autorité et était la norme en matière de foi et de pratique. La raison pour laquelle ils croyaient à la manifestation du don de prophétie après l'époque du Nouveau Testament était fondée sur des arguments bibliques. Cette position est toujours la nôtre, comme le montrent les croyances fondamentales de l'Église adventiste du septième jour. La position d'Ellen White concernant ses écrits et l'écriture. Ellen White croyait au principe sola scriptura. Ellen White écrivit beaucoup de choses sur le lien entre ses écrits et la Bible, et sur le rôle de la Bible en matière de foi et de pratique. Elle adhérait totalement au principe sola scriptura. Elle écrivit « La Bible et la Bible seule est notre règle de foi ». La conclusion du premier livre d'Ellen White, publié en 1851, établit clairement sa position concernant le lien entre ses écrits et la Bible. Cher lecteur, je vous recommande la parole de Dieu, qu'elle soit la règle de votre foi et de votre vie. C'est par elle que nous serons jugés. Dans sa parole, Dieu a promis de donner des visions dans les derniers jours, non comme une nouvelle règle de foi, mais pour consoler son peuple et corriger ceux qui s'éloignent des vérités bibliques. Cette déclaration a caractérisé toute sa vie. Au milieu de son ministère, en 1885, elle écrivit dans la publication de l'Église « la Bible seule doit être notre credo, notre lien. Tous ceux qui s'inclinent devant cette sainte parole vivront en harmonie. » Au cours de ses premières visions, elle tenait souvent la Bible. Elle la citait et la plaçait entre les mains de ceux dont la foi était vacillante. Quand un jour elle douta au sujet de ses visions, la réponse lui parvint avec 50 versets bibliques. Dans le cadre de sa dernière présentation lors de l'Assemblée de la Conférence Générale de 1909, elle conclut sa prédication en tenant la Bible et en disant « Frères et sœurs, je vous recommande vivement ce livre ». Au sujet de son expérience et de celle des autres fondateurs de l'Église adventiste du septième jour, elle écrivit « Nous avons ensuite décidé que la Bible, et la Bible seule, devait être notre guide. Nous ne changerons jamais de position ». Concernant la réforme protestante et le principe sola scriptura, elle déclara « Il existe, de nos jours, une forte tendance à s'éloigner de la saine doctrine, des réformateurs. Il est donc nécessaire de revenir aux grands principes protestants, les Écritures, seules règles de la foi et de la vie. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. » À propos des protestants qui faisaient appel à la tradition ou au père de l'Église, elle affirma « Ils ont beau se réclamer, pour ce changement, de l'autorité de la tradition et des pères, ils le font au mépris du principe même qui les a séparés de Rome, à savoir que leur seule et unique règle de foi est l'Écriture sainte. » Dans tous ses écrits publiés, Ellen White utilisa 45 fois l'expression « la Bible et la Bible seulement » et 47 fois l'expression « la Bible et la Bible seule ». Ellen White, un prophète de l'Écriture. Il est important de prêter attention à la compréhension qu'avait Ellen White de ses visions prophétiques et de ses rêves, et de leur lien avec la Bible. Elle se considérait comme une messagère du Seigneur, appelée à diriger le peuple vers la Bible. Ellen White était un prophète de l'Écriture. La Bible jouait un rôle central dans l'expérience personnelle et le ministère d'Ellen White. Non seulement elle lisait l'Écriture, mais elle la citait très souvent dans ses écrits. Un grand nombre de ses livres sont des commentaires de la Bible. La série « Le conflit des âges » en 5 volumes est un commentaire chronologique de la Bible. D'autres livres comme « Christ Object Lesson »,« Les paraboles de Jésus » et « Thoughts from the Mount of Blessing »,« Heureux ceux qui » sont des commentaires des paraboles et des enseignements des évangiles. Ses autres livres majeurs, « Éducation »,« Éducation », The Ministry of Healing, le ministère de la guérison, et Steps to Christ, le meilleur chemin, sont certes des livres thématiques, mais ils sont fermement ancrés dans les Écritures et les principes bibliques. Même ces livres contenant essentiellement des conseils sont centrés sur la Bible. Ils sont écrits de façon à encourager les lecteurs à étudier la Bible et à développer leur foi en Jésus. Le livre d'Ellen White, qui a été traduit dans le plus grand nombre de langues et qui est donc le plus lu, Steps to Christ, le meilleur chemin, fut tout d'abord publié par Fleming H. Revell, une maison d'édition non-adventiste. Elle voulait que ses écrits amènent les gens à la Bible et à Jésus, qu'ils la considèrent comme un prophète ou non. Son objectif principal était de témoigner de la prééminence et du rôle essentiel de la Bible. En tant que prophète, elle voulait inciter les adventistes du septième jour et le monde entier à se tourner vers l'Écriture. Elle écrivit « J'ai une œuvre qui comporte une grande responsabilité, celle de faire connaître, par la parole et par la plume, non seulement aux adventistes, mais au monde, les instructions qui m'ont été données. J'ai publié de nombreux ouvrages, grands et petits, dont quelques-uns ont été traduits en plusieurs langues. Mon travail consiste à expliquer aux autres les Écritures comme le Seigneur me les a fait comprendre. » Ellen White croyait même que ces témoignages n'auraient pas été nécessaires si ceux qui affirmaient être croyants avaient étudié la Bible avec sérieux. Le 30 avril 1871, elle eut un rêve qui l'incita à faire certainement la déclaration la plus claire concernant le lien entre ses écrits et la Bible. Elle se vit en train de s'adresser à un grand groupe lors d'une importante réunion de l'Église. Les Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez étudié la parole de Dieu avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ses enseignements purs et élevés. Le Seigneur désire vous avertir, vous reprendre et vous conseiller par le moyen des témoignages, et frapper vos esprits par l'importance de la vérité contenue dans sa parole. Les témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières, mais à graver d'une manière plus vivante dans les cœurs les vérités déjà révélées. Quand elle s'adressait aux gens après avoir eu une vision, elle avait l'habitude de commencer par mettre l'accent sur les principes bibliques plutôt que sur son autorité prophétique. « Il est de mon devoir de présenter les principes bibliques », écrivit-elle. Puis, si les personnes dont la situation m'a été présentée ne prennent pas la ferme décision de changer, je m'adresse à elles personnellement. Ellen White utilisait une analogie pour décrire le lien entre ses écrits et la Bible. Elle écrivit « On a accordé trop peu d'attention à la Bible. Aussi le Seigneur a-t-il suscité une plus petite lumière pour conduire hommes et femmes vers la plus grande lumière qui soit. » La comparaison entre la petite et la grande lumière suggère que, tout comme la lune ne fait que refléter la lumière du soleil, ces messages puisent leur autorité de l'Écriture et ne sont que le miroir des principes qui y sont présentés. Les écrits d'Ellen White et le canon biblique. Les adventistes du septième jour ne font pas la distinction entre la nature et le caractère de l'inspiration d'Ellen White d'une part et des auteurs bibliques d'autre part, mais ils ont une position très claire sur le rôle et la fonction de la Bible par rapport à ses écrits. Les adventistes comparent ses écrits à ceux des prophètes non canoniques comme Enoch, Hulda, Déborah, Myriam, Élie, Élisée, Nathan, Gad, Achija, Ido, Jean-Baptiste et d'autres prophètes du Nouveau Testament qui ne rédigèrent pas de livres de la Bible. Ellen White écrivit « Pendant la période au cours de laquelle l'Ancien et le Nouveau Testament furent rédigés, le Saint-Esprit ne cessa pas de communiquer une lumière à chaque auteur, outre les révélations qui devaient être contenues dans le Saint Canon. La Bible elle-même relate de quelle façon, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les hommes ont reçu des messages d'avertissement, de reproche, de conseil et de recommandation sans lien avec la rédaction des Écritures. Il est aussi question de prophètes très divers dont les paroles ne sont pas relatées. De la même façon, après la fermeture du canon biblique, le Saint-Esprit devait continuer à œuvrer, à éclairer, à avertir et à réconforter les enfants de Dieu. Nathan, en particulier, est un bon exemple de prophète non canonique ayant joué un rôle similaire à celui d'Ellen G. White. Il porte le titre de prophète, il écrivit un livre inspiré qui n'est pas inclus dans la Bible. Pourtant, David, qui était lui-même un prophète non canonique, voir 1er roi 1, 1 chronique 17, versets 1 à 15, 29, versets 29, 2 chronique 9, versets 29, psaume 51, reconnut son rôle prophétique. Ellen White établit clairement que ses écrits n'étaient pas un ajout à l'écriture. Frère R. jette la confusion dans les esprits en cherchant à montrer que la lumière que Dieu a donnée par les témoignages est une addition à la parole de Dieu. Mais il présente le sujet sous un faux jour. Dieu a jugé à propos d'agir ainsi pour attirer l'attention de son peuple sur sa parole afin de lui en donner une intelligence plus claire. Ainsi, les adventistes et Ellen White considèrent que seul le canon des Écritures fait autorité, et ils ne conçoivent pas les visions et les rêves prophétiques modernes comme un ajout à la Bible. Le rôle d'Ellen White dans la définition de la doctrine adventiste. Il apparaît clairement dans l'histoire que les écrits d'Ellen White ne furent pas la source des doctrines de l'Église adventiste du septième jour. Ses conseils ont enrichi la réflexion menée sur les doctrines et ont exercé une influence permettant de corriger ou d'unifier certains éléments, mais ses écrits n'ont jamais été le fondement des doctrines ou de l'expérience chrétienne. Voici un bref résumé du développement de certaines croyances adventistes. Les adventistes amenèrent avec eux les doctrines des églises protestantes dont ils étaient issus, notamment concernant Dieu, le salut et le péché. Ils développèrent ces concepts au fil du temps, mais ils relevaient plus de l'arminianisme que du calvinisme. Certaines doctrines qui sont considérées comme des doctrines distinctives de l'Église adventiste étaient aussi un héritage du passé qui fut développé grâce à l'étude de la Bible. Le concept du retour imminent du Christ, basé sur une interprétation historiciste des livres de Daniel et de l'Apocalypse, venait des millérites et de l'approche historiciste de la période de la Réforme. La doctrine adventiste de l'immortalité conditionnelle, de l'inconscience de l'âme à la mort et de la destruction définitive des perdus venait également d'un mouvement minoritaire de millérites et notamment de George Storrs. Le concept du sabbat venait clairement des baptistes du septième jour. Ellen White accepta l'idée de l'immortalité conditionnelle avant d'avoir eu sa première vision, et elle accepta le sabbat en étudiant la Bible après avoir reçu un tract de Joseph Bates. Concernant le sabbat, elle prit position peu de temps après son mariage, au cours de l'été ou du début de l'automne 1846. Elle n'eut pas de vision sur le sabbat avant 1847. La doctrine du sanctuaire céleste et l'importance eschatologique du sabbat vinrent de Crozier et de Joseph Bates. Les visions d'Ellen White permirent de confirmer et d'enrichir les doctrines, mais celles-ci avaient déjà été adoptées et formulées. La doctrine de la dîme ne fut établie qu'en 1870, après une étude sérieuse de la Bible. Elle ne fut pas développée en fonction des écrits d'Ellen White. Même si les écrits d'Ellen White exercèrent une certaine influence, c'est l'écriture qui fut décisive dans la formulation de cette doctrine. Ainsi, Ellen White ne fut pas la source ou l'initiatrice du développement des doctrines de l'Église adventiste du septième jour. Ses écrits permirent de les enrichir et de les rendre plus cohérentes. Ses positions ne furent pas un frein à l'étude de la Bible. Au contraire, elles l'encouragèrent. Résumé. Ce chapitre a présenté le lien entre Ellen White et la Bible. Les adventistes se considèrent comme des protestants et ont toujours eu une approche restaurationniste du principe sola scriptura. Ellen White souscrivait aussi clairement à ce principe. Ni les premiers adventistes, ni Ellen White ne considéraient que son ministère prophétique était incompatible avec ce principe. Au contraire, ils pensaient que ces visions étaient un accomplissement des prédictions bibliques et qu'elles étaient soumises à l'autorité biblique. Ellen White alla même plus loin et affirma que son don et ses écrits prophétiques devaient guider les gens à la Bible. Elle se considérait comme un prophète de l'écriture. Elle désirait guider non seulement les adventistes, mais aussi la communauté chrétienne au sens large, vers la Bible et son message. Elle estimait que ses témoignages personnels n'auraient pas été nécessaires si les enfants de Dieu avaient fait preuve d'une plus grande fidélité dans l'étude de la Bible et dans leur pratique. Enfin, l'étude du développement des doctrines adventistes montre que les rêves et les visions d'Ellen White enrichirent ce processus, mais n'en furent jamais à l'origine et ne jouèrent pas un rôle déterminant. Les adventistes la considèrent comme un prophète non canonique. Il est essentiel de comprendre l'expérience personnelle d'Ellen White en lien avec la Bible. Elle l'étudiait assidûment et en mémorisait de nombreux passages. Ses écrits personnels et publics sont centrés sur la Bible et contiennent des allusions, des références et des citations de la Bible. Les valeurs théologiques ou relatives au mode de vie qu'elle défendait étaient toujours liées à la Bible. Les adventistes sont également invités à persévérer dans l'étude de la Bible et à chérir le principe de sola scriptura. Conclusion. De nombreux principes herméneutiques ou interprétatifs sont essentiels pour comprendre les écrits d'Ellen White. Aussi importants soient-ils, ils reposent tous sur la conviction d'Ellen White que l'Évangile reflète l'amour du Père manifesté en Jésus et que les Écritures sont vitales. Si ces deux principes sont bien compris et acceptés, alors toutes choses trouvent leur place. En lisant et en présentant Ellen White ou ses écrits, nous devons toujours mettre l'accent sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus et sur le lien entre ses écrits et la Bible. Si nous agissons ainsi, nous serons fidèles à la fois à son intention et à celle de Dieu. Négliger ses fondements serait dangereux et nous inciterait à faire une mauvaise interprétation de ses écrits, ce qui nuirait à leur influence et à la force de la révélation de Dieu. S'il est vrai que Jésus donna son témoignage par l'intermédiaire du don de prophétie tel qu'il est présenté par Jean dans l'Apocalypse, alors il est impératif que nous y prêtions attention. Le témoignage de Jésus nous apporte le salut et est notre guide dans un monde brisé par le péché et les souffrances. Jésus a-t-il donc voulu que les écrits d'Ellen White soient pour les adventistes un soutien leur permettant de former le peuple du livre ? Pouvons-nous être attirés à Jésus et au Dieu d'amour en lisant ses écrits et être ainsi transformés ? Des millions de personnes ont fait cette expérience, mais cela ne peut être prouvé qu'en lisant ses écrits et en se tournant vers la Bible dans un élan dynamique de foi et d'action.